prendront contact avec vous.
Et Cogeco Nouvelles.
Mardi 23 avril, ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, le corps d'un Canadien mort à Cuba aurait été rapatrié par erreur en Russie. La famille de Farah Alajarjour a enfin eu certaines réponses des autorités canadiennes. Karl Marchand.
Myriam Jarjour a eu la mauvaise surprise de découvrir le corps d'un citoyen russe lorsqu'elle a ouvert le cercueil de son père. Faute d'informations de la part du gouvernement fédéral, la famille a eu des informations de l'entreprise funéraire responsable. Anna Francis, un ami de la famille.
Le corps de son père, dû à une erreur d'autopsie, que ça se peut que c'était échangé avec le russe et finalement son père était repatrié en Russie.
Et ce n'est pas le seul raté du gouvernement fédéral. Le père de Jennifer Trottier est mort le 27 février dernier à Cayo Largo alors qu'il y était avec sa conjointe pour l'hiver. La famille a d'abord reçu les cendres d'un homme décédé au Panama avant que la situation soit corrigée.
Autant à l'hôtel là-bas, autant à l'aéroport, personne
n'est. Ici Karl Marchand pour Cogeco Nouvelles.
Le gouvernement Legault qui a annoncé ce matin des mesures pour venir en aide aux locataires à l'approche du 1er juillet. La ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a affirmé que le gouvernement fournirait notamment près de 8 millions de dollars aux municipalités ainsi qu'aux offices d'habitation pour aider les ménages sans logis. Madame Duranceau a appelé les citoyens à venir chercher de l'aide qui est disponible, assure-t-elle.
Je veux m'adresser directement aux ménages qui sont dans une situation précaire en ce moment. Je le comprends, c'est stressant, c'est pas facile, mais on est là pour vous aider. Faites appel au service de la société d'habitation, de l'office d'habitation sur votre territoire, puis il y aura des gens qui sont compétents, qui sont motivés, puis qui sont passionnés, puis qui veulent être là pour vous.
Toute une histoire ici, alors que deux voleurs auraient tenté de voler des milliers de litres d'essence dans une station-service de Brossard la nuit dernière, sauf que la police est arrivée à temps pour les en empêcher. Les suspects auraient versé l'essence dans des bidons, vous l'aurez deviné, et auraient placé ces bidons dans un camion. La police est toutefois arrivée sur place avant qu'ils puissent fuir avec leur butin, comme l'indique ici l'agente Mélanie Mercil, porte-parole pour le service de police de l'agglomération de Longueuil.
Les agents sont intervenus sur place et l'un des deux suspects s'est enfui à pied. Les agents, accompagnés d'un maître chien de la Sûreté du Québec, ont tenté de localiser le suspect, mais nous sommes toujours à sa recherche. Un homme âgé de 19 ans est arrêté et est actuellement en détention. Il pourrait faire face à des accusations de vol de plus de 5 000 $.
La GRC a mis au jour un complot visant notamment à vendre illégalement des drones et des équipements militaires chinois destinés à la Libye par l'entremise de compagnies écrans étrangères. Les individus à l'origine du complot auraient contourné donc les sanctions internationales. Les faits allégués auraient été commis alors que les complices étaient à l'emploi de l'OACI, une organisation de l'ONU située au centre-ville de Montréal. Des accusations de complot ont été déposées contre Fatih Ben Ahmed Mouarek, 61 ans, de Sainte-Catherine, et Mahmoud Mouahed El-Souwaye Saye, 37 ans. Ce dernier aurait utilisé un stratagème permettant de dissimuler le vendeur et l'acheteur d'équipements militaires. Il est toujours recherché par les autorités. Pour sa part, Ben Ahmed Mouahed aurait comploté pour faciliter des transactions d'achat de pétrole libyen entre des entités prohibées et la République populaire de Chine. Il va comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Enfin, le nombre de décès liés à la distraction au volant a augmenté de 67 % en deux ans au Québec, selon une étude de Hello Safe. Un décès sur cinq sur les routes au Québec est causé par la distraction au volant. En 2021, 73 Québécois sont morts à cause de conducteurs distraits. Vous écoutez Cogeco.
Bonjour, ici les gens de Terrebonne. Vous invite à ne pas manquer.
Ouais, laisse faire, je vais m'en occuper. Ici Jean-Claude Gélina. Chaque jour sur CFX FM 93 Rimouski, je vous invite à ne pas manquer mes petites vitres.
Votre vision est dérangeante, vous ne voyez plus aussi bien qu'avant, vous êtes déçu de vos lentilles intraoculaires, vous n'aimez pas porter de lunettes. Au Centre ophtalmologique de l'Estuaire, plusieurs solutions visuelles sont disponibles à divers problèmes oculaires. Prenez votre premier rendez-vous dès maintenant pour évaluer la santé de vos yeux. Notre équipe vous présentera les options qui s'appliquent à vous. Notre parcours cataracte a reçu la note de 98,3% à la visite d'Agrément Canada. Appelez au Centre ophtalmologique de l'Estuaire au 418-723-2016.
FM 80.
Échangeons. Tous les sujets sont permis et approfondis.
Voici l'effet Normando.
Oh, oh, oh.
réseau Cogeco. Voici l'effet Normando avec Nathalie Normando.
Bonjour, je vous souhaite un excellent mardi. Bienvenue au réseau Cogeco. Après avoir resserré les règles pour les locations à court terme, vous savez, celles de type Airbnb, les propriétaires de chalets ou de résidences secondaires qui font ce type de location verront leur compte de taxes exploser. Si vous êtes dans cette situation, sachez que votre chalet ou votre résidence secondaire sont maintenant considérés comme des immeubles commerciaux. Imaginez, votre compte de taxes pourrait tripler, même quadrupler. Le maire de Gaspé sera avec nous pour nous donner plus d'explications. Vous êtes-vous déjà fait voler de l'argent dans votre compte de banque? Cette question est inspirée de l'histoire de M. Denis Lambert. Denis est un citoyen de Laval en furie contre la BMO. Il s'est fait voler 7 500 $ dans son compte. Le comble, c'est que la BMO ne veut rien savoir de rembourser. L'accuse même d'être responsable de la situation alors que M. Lambert est client depuis 35 ans. Une histoire révélée par le Journal de Montréal qui a retenu notre attention. J'ai envie de vous dire bien, c'est une belle façon de remercier les clients, hein, les clients de la BMO pour leur fidélité. Vraiment, 35 ans client dans une banque, il t'arrive un pépère avec ton compte de banque, puis la BMO te pointe du doigt comme étant le responsable de cette fraude. N'importe quoi, et c'est vraiment franchement révoltant. Se trouver une voiture électrique d'occasion à bas prix, est-ce possible? Notre ami Benoît Charrette se joindra à nous pour démarrer notre deuxième heure d'émission. Et on va terminer avec une question qui risque de vous faire réagir. Est-ce acceptable de priver votre enfant d'école pour aller en voyage? La presse nous apprend qu'au début avril, au Québec, presque 10 % des jeunes n'étaient pas sur les bancs d'école. Texto pour nous joindre, 98-98-5 et le courriel, nathalie@98-5fm.ca. Daniel Côté, maire de Gaspé, au bout du fil. Bonjour, monsieur le maire.
Oui, bonjour.
Bienvenue à l'émission. C'est toute une nouvelle. Et puis, je trouve intéressant qu'on puisse s'en parler parce qu'une auditrice, que je tiens à remercier d'ailleurs, qui s'appelle Monique, nous a mis sur cette piste. Il y a une nouvelle qui fait état de cette nouvelle réalité pour les propriétaires de chalets de résidence secondaire qui a été publiée, entre autres, par CHNC, un poste de radio bien connu en Gaspésie. Et là, on s'est dit, et dans cette nouvelle, on fait état de la réalité de Gaspé. Expliquez-nous le contexte, monsieur le maire, qui fait en sorte que chez vous, des propriétaires de chalets ou de résidences secondaires qui font de la location court terme vont voir leur compte de taxes peut-être tripler ou quadrupler?
En fait, c'est la loi sur la fiscalité municipale qui s'applique. L'article 244.13 dit qu'on doit taxer ainsi les résidences de type Airbnb ou chalet locatif. Pourquoi? Ben, ça fait suite aux réformes législatives de Québec sur l'encadrement des pratiques en matière d'hébergement de courte durée. Donc, toutes les lois fiscales. On se rappelle que quand Québec est intervenu, ils ont imposé à quelque part que tout le monde s'enregistre auprès de Revenu Québec et de la CITQ. Et finalement, ces résidences touristiques-là sont devenues considérées comme des commerces au sens des lois fiscales provinciales, mais par ricochet aux lois fiscales qui s'appliquent aux municipalités aussi. Donc, on doit maintenant obligatoirement les taxer comme commerciales. Ça peut paraître des fois un non-sens, mais on est un peu pognés là-dedans, nous autres aussi, et on l'a appris un peu à la dernière minute, nous autres aussi, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai? À la dernière minute?
Ah oui. Oui, en fait, comme est vu, nous, on a appris des sursauts là-dessus lors de l'adoption du dernier budget municipal à l'automne dernier. On a entendu parler que peut-être qu'il y aurait des changements au niveau des catégories de taxation. Mais quel serait l'impact réel? On ne pouvait pas le savoir tant que l'évaluateur indépendant de la ville n'avait pas fait son travail. Là, il a fait son travail, il a envoyé des lettres à tous les propriétaires. Puis je dirais pas. Je dirais pas de notre insu, on savait qu'il y a des lettres qui partiraient, mais on savait pas l'ampleur qu'auraient ces nouvelles mesures-là. Donc, on a fait le saut, nous autres aussi, mais peut-être un peu moins que les propriétaires de résidences concernées qui ont vu leur compte de taxes tripler, voire quadrupler dans certains cas, et avec un effet rétroactif sur les deux dernières années. Donc, honnêtement, ça fait mal.
Un effet rétroactif? Pourquoi un effet rétroactif? C'est ce que la loi prévoit?
Oui, effectivement, parce que les lois fiscales québécoises ont changé en 2022. Donc, l'évaluateur pouvait remonter jusqu'en 2022 pour aller réclamer ces taxes-là qui étaient entre guillemets dues. Sauf que, honnêtement, nous, on l'avait pas budgété. Là. Si on avait une latitude, on avait une marge de manœuvre pour dire aux gens, écoutez, laissez faire ça, on va commencer en 2024. Probablement que c'est le genre de choses qu'on ferait où on aurait peut-être une approche progressive, c'est-à-dire on aurait pu étaler ces hausses-là sur 3, 4, 5 ans. Mais on n'a aucune discrétion au niveau municipal là-dedans. Faut que les évaluateurs appliquent la loi, puis on a même pas le droit d'intervenir auprès des évaluateurs. Fait qu'on a vraiment les mains complètement liées par la loi.
Dites-moi, Daniel, un exemple concret là, de l'augmentation d'un compte de taxe, par exemple, à Gaspé, ça peut ressembler à quoi pour un propriétaire qui loue son chalet quelques semaines dans l'année sur des plateformes de type Airbnb ou sa résidence secondaire? Là, on parle évidemment, les résidences principales sont incluses. Il n'y a pas de ça dont il s'agit, là. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais ça peut ressembler à quoi? Un exemple très concret?
Exemple très concret, autour de 1500 par année, par exemple, qui est devenu 6500 par année presque, avec un effet rétroactif là, sur les deux dernières années. Donc, il y a des gens qui ont reçu des factures de 8, 10, 12 000 $ à payer one shot. Et la loi prévoit aussi qu'ils ont 30 jours pour payer. Si ces gens-là n'ont pas facturé à leur client en 2023 et pour la saison 2024, là, plusieurs sont déjà loués, s'ils n'ont pas augmenté leur tarif en conséquence, ben, ils n'ont pas cet argent-là dans leur poche non plus, là. Fait qu'ils se plaignent à nous. Évidemment, c'est toujours les municipalités qui sont au premier plan, sauf qu'on n'a aucune marge de manœuvre, aucune latitude pour changer la loi. Nous, on doit l'appliquer. Et si on pouvait revenir auprès de l'évaluateur pour dire, écoutez, voulez-vous y aller avec, de manière un peu plus progressive ou quoi que ce soit, ce serait quand même pas pire, sauf qu'on n'a même pas le droit d'intervenir auprès de l'évaluateur qui doit être totalement indépendant. Fait que vous voyez, on est un peu dans une impasse.
Oui, c'est ça. Donc, aucune marge de manœuvre pour le municipal de créer, par exemple, une sous-catégorie de taxation pour les résidences secondaires. C'est soit résidentiel ou non résidentiel. Il n'y a pas de possibilité entre les deux.
Il y a des sous-catégories qui peuvent exister, effectivement. Encore là, c'est assez complexe. Ça peut créer des iniquités avec ceux qui payent déjà des taxes dites commerciales, par exemple, pour des groupes de chalets. Ceux qui connaissent Gaspé un peu, je pourrais citer, par exemple, les chalets du bout du monde, là, qui sont un groupe de 6 chalets, qui ont toujours été taxés commerciales. Puis en contrepartie, tu as des gens qui ont 5-6 chalets disparates tout le territoire et non pas dans un seul lieu. Et dans ce cas-là, ils étaient taxés résidentiels. Fait que tu sais quoi la différence entre celui qui a 6 chalets ou 5-6 chalets individuels partout sur le territoire qui payent des taxes résidentielles alors que l'autre 6 chalets dans un seul tout est considéré comme commercial. Fait que vous voyez, il y a des iniquités pareilles qui existaient et qui pourraient continuer d'exister avec si on créait des sous-classes. Mais on pourrait créer des sous-classes, c'est juste que c'est compliqué et on l'a essayé, ça créait de nouvelles iniquités.
Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de sympathie de la part de nos auditeurs pour les propriétaires de chalets ou de résidences secondaires qui voient leur statut foncier changer, se transformer. Il y a un auditeur qui écrit, c'est bien correct, que tu fais de l'argent en louant, pas toujours déclaré. C'est une business, nous écrit-il. C'est une business. Est-ce que premièrement, est-ce que vous avez le nombre de propriétaires touchés, par exemple, à Gaspé, par cette nouvelle mesure?
On en a dénombré 82 là, qui étaient enregistrés auprès de la CITQ, donc qui forcément vont être soumis à ces nouvelles règles-là. L'évaluateur a fait son travail pour une quarantaine de propriétés cette année. Il y en a une quarantaine d'autres qui vont voir leur compte de taxes exploser l'année prochaine. Sauf que pour la quarantaine d'autres qui ont été touchés cette année, là, ils sont avertis. On leur a même envoyé une lettre à tout le monde là, pour expliquer c'est quoi le contexte, que c'est pas une décision que nous, on a pris au conseil municipal. Ça ne nous... À quelque part, on reçoit les dividendes de ça. Là, donc, ça peut épargner d'autres contribuables, si on reçoit ces revenus supplémentaires-là, sauf que d'un autre côté, c'est pas une décision qu'on a prise à la table du Conseil. C'est une décision imposée par la nouvelle loi à Québec. On a voulu l'expliquer aux gens. On a voulu prévenir ceux aussi qui vont voir ces comptes de taxes-là exploser l'année prochaine, parce que là, on sait un an d'avance. Pour ceux qui ont vu leur compte exploser cette année, on l'a appris quelques semaines d'avance à peine. Fait qu'on peut les prévenir. Sauf que là, ceux de l'année prochaine, on sait, ils vont savoir à quoi s'en tenir. Je présume qu'ils vont ajuster leurs tarifs cette année pour se garder une petite marge de manœuvre pour l'année prochaine.
Des propriétaires de chalets ou de résidences secondaires, là, qui vont voir leur compte de taxes exploser, qui, devant l'impossibilité pour eux de payer, pourraient-ils décider de mettre fin à leur pratique d'affaires et décider de ne plus louer leur chalet ou leur résidence secondaire? Et si tel est le cas, est-ce qu'ils seraient toujours considérés, est-ce que leur résidence ou leur propriété serait toujours considérée comme un immeuble commercial, de nature commerciale?
En fait, s'ils ne sont plus enregistrés à la CITQ, Revenu Québec va arrêter de les considérer comme commerciaux, puis leur municipalité également. Donc, si les gens se désenregistrent et arrêtent de louer leur chalet ou leur résidence secondaire en location court terme, d'un, ça va enlever de l'offre sur le marché touristique, et ça fait pas notre bonheur non plus, là. Mais par ailleurs, ils vont retomber dans une catégorie de taxes résidentielles, donc beaucoup plus digeste pour leur compte de taxes. Par contre, ils pourront plus faire les revenus qui sont associés à la location court terme parce qu'ils n'auront plus le droit de louer à court terme non plus. À moins qu'ils le fassent sous de la table, à la cachette, comme ça a existé pendant des années et des années. Mais ça, je ne leur recommande vraiment pas d'aller là. Je ne recommanderai jamais à quelqu'un d'agir contre la loi. Je leur recommande de se conformer à la loi. Donc, d'une manière, soit qu'ils reprennent possession de leur chalet à des fins personnelles ou familiales, ou d'un autre côté, ils le demeurent dans le réseau, mais ils doivent assumer la fiscalité qui vient avec.
Et il y a Claude qui réagit en disant, oh my God, la location noire va exploser. Est-ce que vous craignez qu'il y ait davantage de location noire?
Je le crains, effectivement. Je crains que ces nouvelles règles-là reprovoquent